Bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire sur l'antibiorésistance. Merci à tous pour votre présence. C'est le second webinaire proposé cette semaine à l'occasion de la semaine mondiale autour du bon usage des antibiotiques qui a lieu chaque année en novembre. Ces deux webinaires sont le fruit d'un partenariat entre vos URPS et le CRATB Pays de la Loire qui va se présenter dans quelques secondes. Sans plus attendre, je vous propose que l'on commence. Merci de couper vos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et nous les compilerons en fin de présentation. Je laisse la parole au docteur Boutefol et au docteur Cormier. Bon webinaire.
Merci beaucoup.
Hop, et je vous arrête le partage.
Ouais, merci. Alors, hop. Normalement, ça doit être bon pour vous.
Ouais, c'est bon.
Tac. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc déjà, un grand merci aux URPS pour l'organisation de ces deux webinaires, effectivement à l'occasion de la semaine mondiale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Donc moi je suis docteur Willy Boutefol, je suis médecin généraliste et je coordonne avec Hélène Cormier ici présente, donc infectiologue au CHU d'Angers, le Centre régional en antibiothérapie. C'est un webinaire qui se veut et qu'on a voulu aussi avec les URPS pluriprofessionnels. Donc l'idée c'est que à l'issue de ce webinaire, chacun puisse repartir avec les mêmes notions et surtout, on l'espère, avoir le sentiment que tout le monde peut jouer un rôle sur cette thématique. Donc après, comme c'est pluriprofessionnel, forcément, il y aura des parties qui parleront peut-être plus à certains qu'à d'autres. L'idée, c'est peut-être aussi, à l'issue de ce webinaire, de pouvoir creuser certains aspects en fonction des professions. Un tout petit mot donc sur le CRATB, on va pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est une structure donc qui est née en mai 2021, une structure publique qui est rattachée au CHU d'Angers, avec une antenne sur Nantes et dont la mission est la lutte contre l'antibiorésistance, principalement par le bon usage des antibiotiques, et ce sur les trois secteurs, donc les établissements de santé, le médico-social et ce qui nous intéresse ce soir, et même le plus gros morceau finalement, qui est le secteur de ville. On a donc une équipe qui est pluripro, hein. On a des pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers, infirmières, médecins généralistes, infectiologues, ce qui permet aussi d'amener une certaine richesse dans les actions proposées, et on s'adresse aussi bien aux professionnels de santé qu'aux usagers. On a un site que vous connaissez peut-être, qui est en fait la prolongation de l'entité historique qui s'appelle Medcal, et je vous invite à y aller. On va présenter quelques documents ce soir, hein, que vous pourrez retrouver sur ce site. Donc ça, c'est la partie plutôt coordination régionale et stratégique, et on s'articule avec des équipes locales, globalement en fait une par département, qui sont les équipes d'infectiologues historiquement déjà bien implantées et qui donnent les avis téléphoniques pour les prescripteurs, qu'ils soient hospitaliers ou les prescripteurs de ville. Donc ces équipes se sont, on va dire, un petit peu plus formalisées depuis la création du CRATB. Maintenant, elles s'appellent équipe multidisciplinaire en antibiothérapie, EMA, et toutes ces équipes maintenant se sont dotées de la plateforme de téléexpertise OmniDoc que vous pouvez utiliser pour demander les avis, notamment non urgents. À côté de ça, ces équipes, elles accompagnent aussi les projets du CRATB sur le terrain, et donc vous pouvez être amené à les rencontrer pour certaines actions de formation, notamment en ville. Hélène, je te laisse la parole pour dire un mot sur l'antibiorésistance.
Oui, je disais, donc Semaine mondiale de l'antibiorésistance cette semaine.
Je remets le
Donc,
partage.
j'ai plus les diapos.
C'est
Qui est
bon.
l'occasion pour nous, c'est RATB, d'essayer de mettre un peu en lumière cette thématique qui est le fil rouge qui guide nos actions, accompagné par nos partenaires CEPIAS, Omedit et puis le ministère pour essayer d'améliorer l'usage des antibiotiques dans les trois secteurs de soins, comme Willy le disait. Donc, je vais passer assez rapidement sur des notions d'introduction d'antibiorésistance. Qu'est-ce que c'est? Une bactérie résistante, c'est une bactérie qui est soit naturellement, mais surtout qui devient résistante à un ou plusieurs antibiotiques par des mécanismes d'acquisition qui se passent surtout en lien avec la pression de sélection. Hein. C'est très bien démontré que nos prescriptions et l'administration des antibiotiques à l'échelle collective, elle entraîne le développement de résistance. Des bactéries aux antibiotiques. Et donc cette pression de sélection, elle est assez multifactorielle. En un, on retrouvera évidemment le soin en médecine humaine, mais on sait également que les animaux d'élevage, nos animaux de compagnie sont aussi exposés à ces pressions d'antibiotiques. Et on a aussi également une pression environnementale avec les rejets d'antibiotiques des établissements de santé et d'autres sources vers les eaux usées et dans l'environnement. Donc c'est, il faut prendre le problème de façon globale, on dit, sur ces aspects-là, une approche One Health. Et donc évidemment, l'inquiétude et la vigilance des pouvoirs publics sur cette thématique, c'est que ces bactéries résistantes, à terme et sur la progression, elles vont conduire à des impasses thérapeutiques individuelles et des infections même bénignes qui, dans quelques dizaines d'années, pourront peut-être plus être soignées par des antibiotiques thérapie simple. Dans ces mécanismes de résistance, en dehors de One Health, évidemment, il y a tout le secteur soins hospitalier qui est aussi dans les activités, la transmission croisée au niveau de l'environnement, la pression de sélection antibiotique, l'hôpital et les structures d'accueil de personnes âgées dépendantes constituent un peu des points rouges, des hotspots de génération de l'antibiorésistance. Et effectivement, les projections sont assez pessimistes, hein. C'est une thématique qui n'est pas forcément très abordée dans les médias, dans la presse, pas forcément beaucoup relayée. Je ne sais pas si vous saviez que cette semaine, c'est la semaine mondiale de l'antibiorésistance, mais c'est un sujet vraiment d'inquiétude avec des études récentes, par exemple dans le Lancet qui vient de sortir et qui prévoit un poids de l'antibiorésistance dans des mortalités qui est pas dans la mortalité humaine qui est pas du tout négligeable puisque les projections seraient de 39 millions de morts entre 2025 et 2050 en lien avec cette problématique de la résistance aux antibiotiques. Vous pouvez voir aussi des communications un peu choc là de nos collègues du sud de la France avec cet enfant et ce slogan qui décrit que Elliot décidera du nautisme dans quelques années si on ne se préoccupe pas d'être vigilant sur cette thématique et d'essayer d'activer les leviers pour prévenir le développement de ces résistances. Quelques chiffres en France pour donner un panorama. Hein, vous le savez, la France était le quatrième plus gros prescripteur d'antibiotiques en Europe. Là, sur les derniers classement Santé publique France qui vient juste de paraître à l'occasion de la Semaine mondiale de l'antibiorésistance, on est même le deuxième plus gros prescripteur d'antibiotiques derrière la Grèce. Donc on a vraiment des progrès forts à faire en termes de consommation et donc on suit en parallèle de ces consommations évidemment l'impact sur la résistance et on voit émerger en particulier depuis plusieurs dizaines d'années cette inquiétude autour de la résistance d'une bactérie très régulièrement responsable d'infections en médecine humaine qui est Escherichia coli, dans la sphère urinaire par exemple, avec des résistances aux antibiotiques de première ligne, que sont les céphalosporines de troisième génération et des molécules très utiles aussi en thérapeutique humaine, que sont les quinolones, avec, vous voyez, des chiffres de résistance importants, en moyenne 13,5% des souches de colis en France sont résistantes. Et cette résistance, en parallèle aussi de la consommation antibiotique qui progresse, eh bien, ces résistances sur les courbes du bas, vous voyez en rose les Pays de Loire, où on a quand même globalement en région des chiffres un petit peu meilleurs qu'à l'échelle nationale, mais une progression de la prévalence de ces résistances. Et donc, effectivement, ça illustre le message que je vous ai passé tout à l'heure de notre classement. Ça, c'est en les données européennes ECDC 2022 et puis comme je vous disais, les données qui viennent de paraître en 2025 sur les classements récents nous placent derrière la Bulgarie et la Roumanie. Donc en avant-dernier, encore beaucoup de travail sur la thématique, même si en région Pays de Loire, il faut quand même le souligner qu'on a des chiffres de prescription et de résistance qui sont quand même bien meilleurs que certaines régions. Et puis donc avec ce schéma où on montre que la prescription d'antibiotiques sur la dernière décennie est plutôt sur une dynamique un peu de diminution, mais vous voyez qu'après l'ère Covid, c'est remonté. Donc il y a toute une politique globale, collective de santé publique à mener autour de la surprescription et de guider les bonnes prescriptions.
Alors on a parlé voilà, beaucoup la prescription, donc forcément le raccourci est assez vite fait de se dire que évidemment si on veut une bonne maîtrise de l'antibiorésistance, il faut une bonne maîtrise des prescriptions, et que donc le levier majoritaire, c'est finalement de s'adresser eh bien à ceux qui prescrivent. Alors, dans un monde un peu simpliste, on a ce schéma-là, c'est-à-dire un patient qui consulte avec des symptômes, on fait un diagnostic d'infection, on suit les recommandations qui sont quand même assez bien fichues en France, et derrière on donne le bon traitement, le bon antibiotique, ou pas d'ailleurs. Donc ça, c'est effectivement faire un raccourci aujourd'hui dans la manière dont sont pris en charge les patients, et notamment sur le secteur ville, avec pas mal de problématiques propres à ce secteur. Et un raccourci qui occulte tout un tas d'éléments qui vont venir en fait influencer la décision de prescrire, et si oui, de prescrire telle ou telle molécule. Et donc on va voir justement dans le reste de ce diapo quatre éléments parmi tant d'autres qui influencent fortement les prescriptions. Et on va voir qu'en fait, il y a certains de ces éléments qui sont du ressort de tout professionnel de santé et pas uniquement des professionnels prescripteurs. Alors, on voulait vous proposer pour démarrer un petit quiz justement pour rester sur la thématique angine, thématique qui paraît quand même ô combien banale. Et donc peut-être dans le chat vous proposer de répondre à ce quiz avec six propositions et peut-être de noter celles qui vous semblent justes. Première proposition, la fièvre est spécifique d'une angine bactérienne. Numéro 2, on peut sans arrière-pensée utiliser le TROD pour rassurer un patient présentant une pharyngite qui présenterait en pharmacie ou chez le médecin. Est-ce que sur un tableau d'angine érythémato-pultacée avec un TDR négatif, on peut quand même instaurer une antibiothérapie en se disant que certes, c'est peut-être pas du streptocoque A, mais ça peut être un autre streptocoque? Est-ce qu'en cas d'angine bactérienne, il faut forcément une antibiothérapie pour guérir? Est-ce qu'en cas d'angine bactérienne, il faut rapidement mettre l'antibiothérapie pour éviter le risque, on va dire, historique de rhumatisme articulaire aigu? Et enfin, toujours dans le cas d'une angine bactérienne, eh bien, le fait de traiter par antibiotique diminue fortement le risque de complications locales, à savoir phlegmon ou abcès. Je veux bien que tu checkes éventuellement, Hélène, les réponses, parce que je ne voudrais pas tout quitter en regardant le chat. Qui a accès.
Oui, je. Sinon, on peut
Oui.
peut-être répondre à l'oral pour ça, si vous êtes OK.
Allez-y, si c'est pas la
Oui,
cacophonie, on
vas-y.
peut.
Ouais. S'il y a des gens qui veulent se lancer. Dans le chat, j'ai 5 et 6. En cas d'angine, on met rapidement une antibio pour éviter le rhumatisme. Et en cas d'angine, l'antibiothérapie diminue fortement le risque de phlegmon abcès. Alors une autre réponse qui consolide la proposition 5 et 6 et qui ajoute qu'en cas d'angine bactérienne, on ne peut pas se passer des antibiotiques pour guérir.
La 4, quoi. Ok.
Ouais.
Est-ce qu'il y a éventuellement des commentaires par rapport à
Moi, je
ces
ne suis pas
réponses?
d'accord.
Ok,
Je suis
bah,
pas d'accord.
c'est le moment de le dire.
Pour la 5, les risques de RA et de glomérulonéphrite, je crois, c'est l'autre, sont quasi, ils sont pas inexistants, mais ils sont extrêmement faibles. Et l'antibiothérapie empêche pas, enfin, empêche pas. Enfin, il y a des pays, notamment les pays scandinaves, je crois, qui prescrivent même plus d'antibio sur les angines, justement, parce qu'on a des sociétés qui ne voient quasiment plus ces complications.
Alors effectivement, ça illustre bien ce cas-là, finalement, pourquoi il y a des recos qui disent qu'il faut prescrire ou pas une antibiothérapie et quel est le rationnel qu'il y a derrière ces recommandations. Et en fait, notamment, le cas de l'angine est assez intéressant parce que le rationnel de l'antibiothérapie est peut-être pas là où on le pense et finalement fait appel aussi à nos propres croyances, à nos propres craintes en tant que soignants. Et effectivement, dans cette situation, en fait, aucune proposition est juste. Pour la 1, bah, tout simplement parce que ça, donc vous le savez, la fièvre n'est pas du tout spécifique d'une étiologie en particulier, ça peut être aussi bien viral que bactérien. que faire des trodes en se disant que potentiellement, comme ça, on va rassurer le patient, bah, faut penser au risque de faux positifs avec les porteurs asymptomatiques de strepto A. Et donc, quelqu'un qui a une pharyngite peut très bien avoir un strepto A sans angine et va être dépisté positif par le trod et justifie une antibiothérapie inutile. Donc, la clinique doit guider le trod et pas l'inverse. Le trod négatif, alors évidemment, le trod ne détecte que le strepto A. Donc, effectivement, il peut y avoir des angines à strepto non A. Mais seul le strepto A entraîne d'éventuelles complications et a ce pouvoir de contagiosité qui justifie l'antibiothérapie. Et donc mettre une antibiothérapie en se disant qu'on va cibler une autre bactérie qu'un streptocoque A n'a pas d'intérêt. Et puis enfin, pour les trois dernières, effectivement, le rôle de l'antibiothérapie dans la guérison est loin d'être une évidence. On peut guérir d'une angine bactérienne, c'est même la règle en fait, hein, sans antibiotiques. Et puis la prévention des complications, qu'elles soient à distance comme le rhumatisme articulaire aigu ou locale comme le phlegmon, l'abcès, est tout à fait négligeable en fait. L'antibiothérapie n'est pas instaurée en priorité pour cette justification-là. Donc tout ça, comme je vous le disais, pour dire que la prescription d'un antibiotique, l'attente d'un antibiotique, elle découle de tout un tas de représentations qu'on a. Alors évidemment, côté patient, et ça, il y a encore énormément de boulot, comme on va le voir, mais aussi côté soignant, puisque on n'est pas à l'abri, nous, d'avoir aussi des croyances et des représentations par rapport aux infections, les complications qu'elles peuvent avoir et le rôle de l'antibiothérapie dans tout ça. Quelques chiffres que je voulais vous montrer pour illustrer les croyances tenaces hein, des patients. Alors là, c'est une enquête qu'on avait menée en lien avec une MSP de Mayenne. À leur demande, ils voulaient faire un petit sondage auprès de leurs usagers pour connaître un petit peu leurs connaissances et leurs croyances. Parmi les questions, il y avait celle-ci, hein, d'après vous, les antibiotiques sont efficaces sur plusieurs types de situations? Et vous voyez que dans la bronchite, pardon, ils étaient encore 40% à juger que c'était utile. 30% disaient que l'antibiothérapie permettait de guérir plus vite. Et un quart pensait que si la fièvre durait plus de 3 jours, il fallait une antibiothérapie. Autre question, hein, de manière générale, si on prescrit un antibiotique pour votre enfant, est-ce que ça vous rassure? Bon, est-ce que ça diminue les rechutes? Pas tellement. Par contre, cette idée-là aussi, que ça favorise une guérison rapide et que ça évite les complications. Donc un côté un peu miraculeux, hein, finalement, de l'antibiotique qui traîne depuis des décennies, mais que on a du mal encore à faire changer. Dernière question dans cette enquête, si pour des symptômes, donc de rhume, hein, globalement, vous consultez votre médecin, c'est dans quel but? Eh bien, dans cette enquête, évidemment qui était déclarative, hein, donc à prendre aussi avec des pincettes, un tiers disait que c'était pour guérir plus vite, indépendamment en fait de l'attente d'un traitement. 50% pour éviter une aggravation. On retrouve un petit peu les mêmes items que sur la question de l'enfant juste avant. Et seulement 5% déclarent que s'ils consultent, c'est dans l'attente d'un antibiotique. Donc, encore une fois, c'est du déclaratif, mais il y a d'autres études un petit peu plus solides qui vont dans ce sens-là de qu'est-ce que nous, en tant que soignants, on pense que le patient attend d'une consultation et qu'est-ce que le patient attend réellement? Et comme ces éléments-là ne sont pas toujours objectivés, ne sont pas toujours discutés explicitement, et bien il y a des quiproquos, et notamment sur cette attente d'antibiotiques, où il est bien montré que les soignants surestiment l'attente d'un antibiotique par le patient. Et que le patient, souvent, il attend évidemment beaucoup de choses de la part du soignant, mais pas forcément un antibiotique dans ces situations. Ici, c'est une étude alors qui remonte un petit peu, c'est le début des années 2000, mais malgré tout, les conclusions sont toujours d'actualité. Elle s'était intéressée en fait à tous les facteurs qui pouvaient nous influencer en tant que soignants dans la prescription d'un antibiotique, alors que, au départ, en entendant le patient, en l'examinant, on n'était pas du tout convaincu de l'utilité de cet antibiotique. Et pourtant, en cours de consultation, on va douter et potentiellement à la fin prescrire. Donc il y a sans surprise, beaucoup de facteurs hein, qui nous influencent sur une prescription qu'on jugeait pourtant inutile au départ, la demande explicite du patient, évidemment, le fait qu'il y ait eu des échecs par le passé, hein, typiquement le patient qu'on n'avait pas traité, par exemple, pour une sinusite, qui revient pour une sinusite, ça va être plus compliqué de se passer d'un antibiotique, le patient qui s'est automédiqué et qui a commencé son traitement, un contexte familial difficile, une période de deuil ou de surmenage professionnel, où on va être plus enclin à ne pas rajouter un fardeau supplémentaire à ce patient. La demande de fin de consulte, hein, c'est un renouvellement, mais en fin de consulte, la main sur la porte, on va vous demander un antibiotique pour une infection qu'on va, voilà, un tableau qu'on va pas avoir le temps de bien examiner, de bien argumenter. Les reconsultations, quelqu'un qui tousse, qui vient vous voir 3 fois, bah forcément, à la 3e fois, vous êtes plus à risque de prescrire un antibiotique. Et puis enfin, les 4 derniers qui sont des éléments plus subjectifs, liés au médecin et à sa perception du risque chez le patient. Classiquement, le patient qu'on juge vraiment comorbide, très à risque de complications, eh ben on va avoir plus tendance, logiquement, à le traiter que le patient en bonne forme. Et puis également le doute hein, sur l'origine virale ou non du tableau. Et notamment, là, c'est le cas des otites, hein, où clairement, toujours, on a un doute sur le bon diagnostic. Et donc, derrière, c'est un doute qui favorise la prescription d'antibiotiques. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi proposé des stratégies pour ne pas prescrire, qui paraissent plutôt simplistes et pourtant, qui, bah, en fait, sont du bon sens et qui marchent. Notamment le fait de repérer assez tôt que ça va être un problème, le fait de ne pas prescrire et donc de s'y préparer. De se dire assez vite que de toute façon on ne prescrira pas pour ensuite préparer aussi une négociation et préparer le patient à la décision finale qui sera la non-prescription. Le fait d'expliciter, puisque comme je vous l'ai dit, il y a souvent des quiproquos dans les attentes du patient et ce qu'en pense le soignant. Et donc le fait d'expliciter finalement, qu'est-ce que vous entendez par j'ai envie d'être remis très vite sur pied, j'ai besoin de dormir. Nous, on va interpréter certaines de ces phrases comme une attente d'antibiotiques alors que ce n'est peut-être pas le cas. Et puis enfin, l'examen ritualisé qui est assez intéressant puisque à chaque étape, on va détailler les constantes, on va détailler le fruit de notre examen et ça va préparer le patient à la fin à avoir cette conclusion. Qui est pas d'antibiotiques, et quelque part, lui, de toute façon, aura été rassuré par les données de votre examen et acceptera plus facilement cette décision. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, évidemment, là, on parle plutôt côté médical, mais ça peut s'appliquer à tout, c'est-à-dire qu'avec les nouvelles compétences des pharmaciens, notamment sur la réalisation des TROD, on voit aussi arriver ce même type de quiproquo et des demandes parfois de patients de réalisation de TROD pour des situations qui n'en nécessitent pas. Et donc, on peut très bien appliquer les mêmes stratégies pour bah, n'importe quel acte, hein, finalement, réalisation d'un TROD, de demande d'un patient un peu insistant pour un prélèvement, etc. Et donc, pour en revenir à notre histoire d'angine initialement et aux vrais faux qu'on vous proposait, pourquoi aujourd'hui en France la stratégie c'est de traiter les angines? Pour la prévention des complications, donc type RAA, bah non, c'est pas la justification parce que comme le disait notre collègue, c'est une complication qui aujourd'hui est rarissime. Et peut-être que l'antibiothérapie a joué sur le déclin de ces complications, mais en tout cas, le rôle n'a pas été explosif. Les complications locales, alors oui, évidemment, l'antibiothérapie, elle prévient ces complications. Mais d'une part, ce sont des complications tellement rares qu'il faudrait traiter 4 000 patients par antibiotique pour éviter un seul de ces abcès. Donc ça fait quand même un paquet de traitements avec aussi des effets secondaires derrière nécessaires pour diminuer le risque. Et il y a aussi des abcès qui surviennent sous antibiotiques. Hein, c'est même souvent comme ça aussi que ça se passe. Des patients quand même sous antibiotiques qui vont déclarer un abcès. Donc c'est pas non plus la justification. Finalement, la justification, encore une fois, en France, c'est le retour rapide en collectivité. C'est on diminue la contagiosité, l'enfant peut retourner en collectivité, les parents peuvent retourner au travail. C'est aussi bête que ça. Et c'est aussi pour ça que d'autres pays, en effet, ont fait d'autres choix. Et vous prenez par exemple la Belgique, ils ne traitent les angines que sur des critères de terrain et pas du tout sur des critères de streptocoque A ou pas streptocoque A. Donc sur ce premier élément, donc nos croyances et les croyances des patients, c'est important de prendre un peu de recul sur ce côté parfois trop systématique de ces bactériens, il faut forcément un antibiotique pour que ça guérisse. En fait, le système immunitaire dans beaucoup d'infections banales, même bactériennes, peut s'en sortir tout seul. Donc, il faut relativiser un peu cet intérêt et cette importance de l'antibiotique, tout comme relativiser l'importance de l'antibiothérapie pour éviter des complications dans les infections courantes. En fait, le rôle est probablement beaucoup plus modeste qu'on ne le pense. Et enfin, très important, je pense, ne pas surestimer l'attente d'antibiotiques des patients. Il y a souvent des quiproquos, des interprétations, et en cas de doute, il vaut mieux faire expliciter les choses pour éviter de prescrire en pensant que le patient attend ça, alors qu'en fait, il n'attendait pas du tout ça. 3 documents du CRATB pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet, donc que vous retrouvez sur le site. À gauche, c'est justement le rôle de l'antibiothérapie dans la prévention des complications dans les infections ORL. Et puis à droite, C'est l'évolution de l'ordonnance de non-prescription que vous connaissez peut-être, qui indique en fait au patient son diagnostic, la durée attendue des symptômes et pourquoi finalement on ne lui a pas prescrit d'antibiotiques. On sait que le rôle éducatif est très important. En consultation, ils reçoivent beaucoup d'infos. Le complément avec un document qu'ils peuvent relire ensuite à tête reposée, c'est quand même intéressant pour ancrer un petit peu plus les messages. Et à droite, en fait, vous avez une version équivalente, mais plutôt pour les pharmaciens. Alors, donc là, on a vu le côté croyance-crainte. Deuxième élément qui va influencer la prescription, on voulait s'arrêter un petit peu avec vous sur les prélèvements. Et je redonne la parole à Hélène.
Merci Willy. Donc c'est essayer de continuer cette réflexion autour de tout ce qui peut participer dans notre environnement soignant à améliorer l'usage des antibiotiques et le bon usage diagnostique, c'est-à-dire utiliser les stratégies de prélèvement, de démarche diagnostique à bon escient, c'est aussi un élément très important. On va l'illustrer par quelques cas rapides sur lesquels je vous laisse réfléchir. Pour le premier, on va être avec Madame B, 23 ans, qui a réalisé un prélèvement vaginal dans le cadre d'un dépistage systématique chlamydia gonocoque. Hein, vous savez, il y a des stratégies de dépistage validées, même chez des patients asymptomatiques sur chlamydia gonocoque, qui peuvent être des bactéries sources d'infertilité chez la femme. Donc, c'est validé entre 15 et 25 ans en période de vie sexuelle et en cas de changement de partenaire. Donc, vous avez. Le médecin qui s'occupe de Madame B a réalisé la prescription de PCR, chlamydia gonocoque, sur ce prélèvement vaginal. Et puis vous recevez ce résultat, vous révélant qu'il n'y a pas de présence en PCR de chlamydia et gonocoque, mais l'identification d'un autre germe de la flore vaginale, Mycoplasma genitalium. Donc là, quelle serait votre attitude? Est-ce que vous choisissez de traiter plutôt par un macrolide, par une fluoroquinolone? Est-ce qu'on choisit de ne pas traiter? Finalement, Madame B ne se plaignait de rien, ou est-ce que vraiment là vous doutez et vous préférez appeler un expert infectiologue? Je vous laisse éventuellement répondre dans le chat ou prendre la parole si vous avez un avis sur cette question, qui est très effectivement médical. Donc on est d'accord, effectivement, on prescrivait une recherche spécifique chlamydia gonocoque, et puis on a ce résultat finalement qu'on n'avait pas demandé au départ. Je vais avancer, je pense que c'est peut-être toi qui as la main. Donc, Mycoplasma genitalium, c'est peut-être un agent que vous connaissez un peu moins, qui a une actualité qui émerge un petit peu en santé sexuelle. Donc, c'est un germe qui est responsable effectivement, dans une part assez quand même rare des cas, d'urétrite, qui sont liées donc d'inflammation. Au niveau de l'urètre chez femmes et hommes qui sont non liés au gonocoque ni à chlamydia, et également chez la femme on peut voir des tableaux de cervicite, donc d'infection du col de l'utérus. Mais surtout, et c'est à noter et à connaître, ce mycoplasma, on a surtout du portage asymptomatique. Quand on dépiste systématiquement des populations à risque jeunes en période de vie sexuelle qui n'ont pas de symptômes, on voit jusqu'à 40% de dépistage positif chez ces patients. Avec justement, il fait un peu l'actualité parce que quand on a des authentiques cas d'infection, on a des problématiques de résistance aux antibiotiques de première ligne qui émergent. Avec, vous voyez, 40% de résistance aux macrolides, 15% de résistance aux antibiotiques de deuxième ligne que sont les fluoroquinolones et plus de 1 mycoplasme sur 10 dans les situations d'infection qui est résistant aux deux familles. Donc, des stratégies un peu d'échec. Donc, dans ce contexte où la mycoplasme peut être une bactérie commensale, c'est-à-dire intégrer la flore naturelle sans être pathogène ni responsable d'infection, ce raisonnement-là, c'est une bactérie qu'il faut donc pas traité lorsque le patient est totalement asymptomatique. Donc là, on est sur ce cas de choses qu'on n'avait pas recherchées, qu'on retrouve positives, et après on se questionne, et quelle est l'attitude vis-à-vis d'une bactérie isolée quand c'est pas forcément une situation sur laquelle on est très à l'aise à gérer, on n'a pas forcément cette notion de commensalisme, ça va inciter le prescripteur éventuellement à traiter à tort. Donc c'est voilà, une réflexion sur vraiment pouvoir chercher vraiment ce qu'on a ciblé et pas obtenir des résultats qu'on n'avait pas attendus. Il y a une vraie vigilance, il y a aussi une responsabilité, il faut dire, des laboratoires sur ces thématiques. Là, je vais passer assez vite. C'est vous rappeler les recommandations de traitement, mais encore une fois, ces recommandations de traitement, c'est lorsqu'on a un patient qui a une plainte, une urétrite, c'est des symptômes spécifiques, génitaux, de douleur, de brûlure mictionnelle. Enfin, c'est vraiment un tableau clinique très évocateur et on va chercher le mycoplasme que si la recherche de chlamydia et gonocoque est négative et qu'on veut essayer de voir s'il n'y a pas cet agent qui est responsable de façon plus rare d'infections sexuellement transmissibles. Autre illustration de l'importance du bon usage diagnostique et de l'interprétation qui est parfois délicate des prélèvements, le cas un petit peu épineux des coproculture, avec le cas de Madame C qui a 72 ans, qui présente des douleurs abdominales chroniques et fluctuantes, avec un tableau un petit peu atypique de selles molles, mais pas toujours franchement diarrhéique. Elle a pour antécédent un diabète, une hypertension. Sinon, sur le plan d'état général, elle reste vraiment rassurante, avec un bon appétit. Elle n'a pas perdu de poids. Vous savez pas trop comment l'aider. Elle est quand même un peu gênée par les symptômes. Donc, pour essayer d'avancer, de trouver une solution thérapeutique, une coproculture est prescrite, qui va isoler, vous voyez, par une recherche en biologie moléculaire, toujours sur la PCR actuellement, un agent infectieux qu'on appelle Blastocystis hominis. Quelle est votre stratégie dans ce cas? Est-ce que vous traitez par antibiotiques avec du métronidazole? Est-ce que vous choisissez de temporiser, de ne rien faire, ou est-ce que vous prenez un avis?
Moi, j'appelle un ami.
Vous appelez un ami.
Je connais pas le germe, donc
Ok.
Donc,
Bon, c'est ça, c'est une bonne stratégie.
en cas de doute,
Pardon.
c'est probablement le mieux à faire, en effet, plutôt que de prescrire.
Moi, je suis pharmacienne, donc de toute façon, c'est pas moi qui décide, mais si je le connais pas, j'appelle un ami.
On parlait des EMA, équipes multidisciplinaires d'antibiothérapie, qui sont dans chaque département des Pays de Loire. Et on est là aussi pour ça, pour appuyer les doutes et aussi vous accompagner dans les stratégies et souvent aussi dans le choix de l'abstention thérapeutique quand c'est nécessaire. Donc effectivement, blastocystis, bah c'est pas simple, hein, c'est pas une réponse tranchée, noir-blanc, faut traiter, pas traiter. On manque encore sans doute de conclusions de littérature scientifique très claire sur le sujet. On avait fait un petit travail parce que c'est vrai que la coproculture, c'est un test diagnostique qui est quand même beaucoup utilisé au quotidien. Hein. Qui ne voit pas des patients avec des troubles digestifs un peu chroniques? Il y a une pathologie très courante qui est la colopathie fonctionnelle qui peut conduire à la réalisation d'examens de selles pour qu'on essaye justement d'apporter des réponses thérapeutiques aux plaintes des patients qui génèrent donc, vous voyez, plus de 45 000 coproculture en 2023. Il y a une prescription d'antibiotiques ou d'antiparasitaires dans moins d'un tiers des cas. Hein. Dans les antibiotiques, on va surtout retenir un anti-anaérobie, le métronidazole, qui a une activité très efficace sur les, enfin, relativement efficace sur les protozoaires qu'on peut isoler dans les selles et donc qui est prescrit de façon assez fréquente. Mais avec, comme tout antibiotique, un impact évidemment sur les microbiotes. Et puis, ce qu'on voit aussi récemment, c'est l'implantation des nouvelles techniques de biologie moléculaire dans l'analyse des selles. Et donc, c'est vrai qu'on voit, et on est beaucoup sollicité pour ça en tant qu'infectiologue, ces PCR vont identifier des pathogènes de façon très sensible qu'on identifiait peut-être un peu moins avec les stratégies de coproculture classiques antérieures. Donc, ils vont questionner de plus en plus les prescripteurs qui demandent ces examens. Et effectivement, la littérature, enfin, il y a eu pas mal de travaux sur le sujet de la pathogénicité du Blastocystis hominis, et c'est très peu tranché. On a une très grosse co commensalité, un portage dans la population générale qui peut aller jusqu'à 30% sans aucun symptôme. Donc, ça, ce sont des arguments forts pour se dire qu'il y a pas forcément de pathogénicité. Peut-être certains sous-groupes ou sous-types de Blastocystis qui pourrait donner une inflammation du tube digestif, c'est pas encore très tranché. En tout cas, il faut pas à réception du résultat, se jeter dessus et démarrer d'antibiotiques. Il y a un certain nombre de cas où ça marche pas, puisque de toute façon, c'est pas Blastocystis qui est responsable. Il faut aller chercher des diagnostics différentiels à ces troubles digestifs. Et puis, en cas de doute, vraiment pas se jeter sur l'antibiothérapie, temporiser, réévaluer, surveiller le patient. Quand il n'y a pas de perte de poids, pas de signes généraux majeurs, il n'y a vraiment aucun argument pour dégainer une antibiothérapie en urgence. Et on a d'autres pathogènes isolés par ces PCR très sensibles, une bactérie qui s'appelle Aeromonas, d'autres protozoos comme Dianthamoeba fragilis qui posent les mêmes soucis diagnostiques et qui sont responsables, même si on n'a pas d'études de grande ampleur qui chiffrent en France, mais probablement d'une utilisation importante et peut-être non justifiée du métronidazole dans beaucoup de situations. Et enfin, pour terminer l'illustration des démarches diagnostiques, on terminera par un cas infection peau-tissu mou avec ce patient plus âgé, 84 ans. Vous connaissez bien ces profils de patients qui ont des ulcères surinsuffisants veineux. C'est une situation fréquente en clinique. Deux membres inférieurs, il est par ailleurs diabétique. Puis depuis quelques jours, les ulcères coulent plus, ils sont plus malodorants et il y a un écouvillon cutané qui est réalisé au domicile du patient et qui isole ce germe que vous pouvez voir, Pseudomonas aeruginosa, autrement appelé piocyanique, dont l'antibiogramme vous est présenté sur la diapositive. Est-ce que vous traitez de façon systémique avec une ciprofloxacine péroce pour dans une suspicion d'infection cutanée? Est-ce que vous prenez plutôt une stratégie d'antibiothérapie topique par la mupirocine? Est-ce que vous ne traitez pas? Ou est-ce que vous demandez à nouveau à un ami type infectiologue, par exemple?
Ça veut dire quoi SFP pour les noobs? Sensibilité?
Ah oui, je n'ai pas précisé. Donc, c'est sensible à forte posologie.
Ah ok, c'est les fortes doses, ok.
Oui, tout à fait. Vous hésitez? Donc, ça a beaucoup progressé quand même. On est bien moins après sur le BIP pour des écouvillons réalisés sur des plaies chroniques. Effectivement, faut quitter un petit peu cette vision d'organisme humain stérile. Hein, de toute façon, où qu'on prélève la gorge, la peau, les ulcérations, on aura toujours une flore commensale présente. Ça fait partie des microbiotes de l'organisme humain. Donc, ces prélèvements réalisés, ils ne sont pas anodins puisque de toute façon, on isolera toujours quelque chose. Donc, quand ces prélèvements sont prescrits, il faut vraiment qu'il y ait une justification qui soit basée sur une infection. Là, y a-t-il une description de grosses jambes rouges aiguës avec de la fièvre, de recrudescence de douleur? A priori, non, c'est juste un peu plus malodorant et ça coule. Bon, comme une évolution d'une plaie colonisée, hein, on va dire. Donc, jamais on écouvillonne. dans des rares cas, quand vraiment on a une collection bien constituée avec un abcès, un prélèvement noble à l'aiguille peut être envisagé et ça va guider la stratégie antibiotique, mais une plaie à l'air, non, ça va être vraiment colonisé par toute une flore polymorphe qui ne sera pas interprétable et qui ne guidera même pas l'antibiotique si jamais ça devait se surinfecter authentiquement avec des signes de dermo-hypodermite. Donc l'antibiothérapie générale, comme je disais, sera vraiment réservée au cas d'érysipèle franc. Et puis pour toutes les autres situations où on sent que ça se dégrade un peu, mais pour l'instant on n'a aucun élément d'inquiétude périlésionnelle, eh bien on surveille, on rapproche les soins. Éventuellement, le cas échéant, on demande aux experts qui nous accompagnent dans les stratégies de plaies chroniques, mais la solution n'est pas du tout de dégainer les antibiotiques, ça n'améliorera en rien la situation locale. Et puis les antibiotiques locaux, pardon, j'ai pas parlé, mais ils n'ont pas leur place non plus. C'est vrai que c'est pas anodin, hein, ces antibiotiques locaux. On a une claire démonstration, par exemple, de l'implication de l'émergence des SARM en cas d'utilisation d'acide fusidique, enfin en crème la fucidine. C'est bien démontré. C'est un exemple aussi que ces antibiotiques en crème qui peuvent paraître anodins ont aussi un impact sur la résistance aux antibiotiques. On a actuellement aussi à Angers un cas récent de furonculose avec un staphylocoque résistant à la mupirocine. Donc, c'est vraiment des stratégies de traitement qui sont à réserver pour des cas très précis. En tête, j'ai éventuellement l'impétigo, mais ça ne doit pas être utilisé pour d'autres indications. On a des outils et des capsules que, si vous êtes intéressé par les thématiques, peuvent être relayées et visionnées avec nos collègues de dermatologie du CHU d'Angers, l'équipe spécialiste des plaies chroniques, qui avait fait des vidéos enregistrées. Vous retrouverez sur le site du CRATB sur les diagnostics différentiels qui ne sont pas toujours simples entre la dermite de stase liée à l'insuffisance veineuse et aux difficultés du drainage lymphatique par rapport à l'érysipèle, puisqu'on a parfois des grosses jambes rouges et il est difficile de distinguer infection et dermite de stase. Et puis, une vidéo aussi sur la prise en charge globale des plaies chroniques avec les grands groupes de pansements à proposer en fonction des types de plaies qui est proposée par le docteur Nina Sig du CHU d'Angers. Et puis, une petite actualité avec un webinaire plaies chroniques qui vous sera proposé l'année prochaine, le 24 mars 2026, si vous êtes intéressé par ce sujet, avec l'équipe d'experts du CHU de Nantes qui interviendra en binôme médecin-infirmier. Donc voilà, c'est trois petits cas pour vous illustrer que les prélèvements, c'est pas toujours anodin. On prélèvera de toute façon, on trouvera quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce que toujours avoir cette vision de colonisation évidemment possible qui est un concept qui est tout à fait majeur pour se dire que une antibiothérapie, ça se prescrit dans une situation d'infection et pas de colonisation. Donc toujours se poser la question de l'indication du prélèvement à angle réalisé, parce que quand il revient positif, on est très tenté de traiter, interpréter en fonction du patient, de sa plainte, de sa présentation clinique, et puis effectivement, si besoin, prendre un avis quand il y a un doute. Et je vois, j'en profite juste pour rebondir sur une question du chat. Comment joindre les EMA? Sur notre site internet, vous trouverez la cartographie des EMA dans l'espace EMA antibioréférent avec les lignes pour nous joindre, les expertises Omnidoc et les lignes téléphoniques en cas d'urgence, donc en fonction des territoires où vous exercez. Et puis, vous l'avez également, peut-être certains d'entre vous utilisent AntibioClic. Et la carte régionale Pays de Loire, elle figure aussi sur l'outil quand vous connectez en tant que professionnel santé résident exerçant en Pays de Loire.
C'est vrai qu'on aurait pu dire la même chose aussi avec le CBU, hein. On n'a pas fait de cas autour de l'urine, mais c'est exactement la même réflexion que ce que vient de proposer Hélène autour des prélèvements urinaires. Pour le troisième point, on proposait de refaire un petit focus sur l'allergie, puisque l'allergie, c'est aussi une problématique, bon usage des antibiotiques, puisque forcément, avec un patient étiqueté allergique, on va se priver de molécules de première intention qui sont souvent des molécules moins génératrices de résistance pour se rabattre sur des macrolides, des C3G. Donc, il y a un vrai enjeu, et là aussi pour tout soignant, de faire attention à ces étiquettes d'allergie chez les patients. Hélène, je te laisse la parole.
Je remets le micro, ça sera mieux. Donc effectivement, c'est une vraie problématique, hein, puisque vous avez un patient sur 10 qui se déclare allergique, et finalement, dans ces patients déclarés, il y en a 15%. Les études montrent bien qu'il y en a 15% qui l'est réellement lorsqu'on fait les tests allergologiques. Donc c'est un vrai sujet, puisque être étiqueté allergique à tort, et c'est bien démontré aussi par la littérature scientifique, expose à utiliser des antibiothérapies moins efficaces. Donc c'est vrai que quand on a des infections sévères chez un allergique qui n'a pas été exploré, bah ça nous pose vraiment des soucis de prise en charge à l'hôpital, c'est très clair. Donc potentiellement moins efficace. Bon, médecine communautaire, c'est pas toujours très grave, mais à l'hôpital sur les situations sévères, c'est vraiment questionnant. Qui peuvent avoir plus d'effets indésirables avec un spectre plus large, qui vont avoir des impacts écologiques plus importants au niveau des microbiotes. Donc, c'est vraiment une étiquette délétère quand on raisonne à l'échelle collective sur le bon usage des antibiotiques. Donc, vraiment, enfin, l'importance, même si c'est évidemment des professionnels qui sont très sollicités, mais d'orienter vers l'allergologue pour pouvoir désétiqueter l'allergie. Après, avant l'expertise, nous aussi, on a des petits moyens de désétiqueter, aborder la question avec le patient, préciser un petit peu qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a décrit une situation d'allergie, puisque effectivement, déjà, dans un grand nombre de cas, on va voir tout simple, enfin, rapidement à l'interrogatoire que ce n'est pas une allergie. Il va nous décrire des champignons. Des troubles digestifs ou diarrhées qui sont une conséquence des déséquilibres de la flore intestinale, mais absolument pas une allergie. Quand c'est pas sévère, on est vraiment tout à fait rassuré, c'est pas une allergie. On peut aussi avoir un certain nombre de situations où l'antibiotique déclaré responsable de l'allergie a été repris et que tout s'est très bien passé. Donc c'est là où nos collègues pharmaciens d'officine peuvent être vraiment aidant dans cette démarche pour savoir s'il y a eu des ordonnances de prescription récentes sans histoire clinique de complications ou parfois aussi le médecin généraliste dans son logiciel patient. Et puis vraiment sensibiliser le patient hein, dans soignant, on est tous un petit peu on peut tous être porteurs de ces messages que si l'histoire est floue, eh bien il faut vraiment l'élucider avec un professionnel ou un allergologue si l'histoire est peut-être perçue un petit peu comme ayant été sévère. Il y a éventuellement des pistes de réintroduction orale au cabinet, des stratégies qui peuvent se déployer. Willy, je te laisse préciser un petit peu ce point que tu connais mieux que moi.
C'est effectivement, alors il n'y a pas encore de recommandations claires sur le sujet et le collège d'allergologie est en train de se prononcer, mais des études montrent que notamment chez l'enfant, les tests de réintroduction au cabinet sont extrêmement fiables, même par le médecin généraliste sans aucune complication. Et plus récemment, des allergologues, notamment nantais, ont fait une étude auprès de patients qui ont été réintroduits en consultation d'allergologie directement avec un tri sur le terrain, et sur 600 patients introduits, enfin réintroduits, pardon, où ils ont fait le test de réintroduction, il n'y a eu aucun effet secondaire, donc ce qui pourrait aussi ouvrir la porte à des tests de réintroduction en ville directement, sous réserve évidemment d'une bonne sélection des patients avant, avec des critères très précis pour sélectionner ceux qui en fait ont un risque ultra faible d'une vraie histoire allergique. Donc il y a une étude qui va démarrer, on l'espère bientôt, en Pays de la Loire, justement, sur ce sujet-là. Et peut-être derrière un protocole régional, voire plus, pour pouvoir s'emparer du sujet quand on voit les difficultés aussi d'accès à l'allergologue.
Effectivement, on a des petits outils aussi sur ces messages. La fiche que vous connaissez peut-être, pénicilline, beaucoup d'allergies, n'en ont pas, qui ont eu un vrai succès et qui sont très relayées et très commandées auprès du CRATB. Et puis, une lettre d'actualité un petit peu plus détaillée qui va, si le sujet vous intéresse, sur désétiqueter l'allergie au bêta-lactamine, qui va un peu plus loin sur le sujet. Et puis, une lettre, un petit flyer d'infos que vous retrouverez aussi dans la partie patient du site medcal.fr du CRATB. Donc, effectivement, les messages, c'est que c'est une étiquette qui est largement surestimée. Hein. Vous rappelez, un patient sur 10 qui se déclare allergique et il n'y en a qu'un pour cent d'allergiques. Pas très important de désétiqueter, et ça, c'est pas que la mission du médecin. Hein. Tout soignant peut accompagner la démarche. Comme Willy souhaite le citer, on accompagnera, on espère, un protocole régional en ville pour essayer que des étiquettes soient retirées dès la pratique en médecine générale. Et puis, on va aussi vous proposer, partenariat avec les URPS, un webinaire ciblé sur l'allergie. L'année prochaine, on diffusera l'info plus précise. Ça sera au printemps.
Merci Hélène. Et donc dernier élément qui influence la prescription, on a voulu faire un petit focus sur l'aspect prévention, qui est encore quand même le meilleur moyen de ne pas utiliser un antibiotique, hein, c'est de ne pas tomber malade. Et c'est peut-être l'élément le plus universel en tant que soignant, où chacun peut vraiment jouer un rôle en sensibilisant, en éduquant les usagers. Alors là, on a plutôt mis quelques outils. C'est un sujet qui est quand même très très vaste, mais vous retrouverez sur le site différents outils. À gauche, les ordonnances pour infection virale qu'on a déjà abordées en début de topo, donc pour essayer de faire comprendre au patient son diagnostic, pourquoi un antibiotique n'est pas nécessaire et surtout très important, combien de temps vont durer ces symptômes pour éviter des reconsultations inutiles, donc une version médecin, une version pharmacien. On avait fait un partenariat avec le youtubeur White Doc pour une vidéo autour de la toux, et notamment ces toux qui vont traîner longtemps et qui vont entraîner des craintes, des reconsultations et parfois des prescriptions. C'est une vidéo qui est sous-titrée, donc qui pourrait être affichée dans les officines s'il y a des écrans ou les salles d'attente si des écrans sont présents. À droite, une affiche pour sensibiliser dans les salles d'attente ou les lieux de soins sur la durée de la toux, encore une fois, donc autre format pour le même sujet. Ces outils sont commandables hein, sur le site de Medcal. Il y a un onglet outils où on peut passer une commande directement et on va dire dans la limite des stocks, on s'engage à imprimer et livrer ces outils en région Pays de la Loire. Toujours avec White Dog, je vous encourage vivement à aller voir les vidéos qu'il a pu faire sur la fièvre, qui sont vraiment très bien, entre idées reçues et fièvre de l'enfant, qui sont quand même des éléments hyper importants par rapport aux croyances qu'on a pu évoquer aussi en début de topo. Et sur antibiotiques, il faut savoir que ça se diversifie un petit peu. Il y a toujours évidemment cet arbre décisionnel pour trouver la bonne antibiothérapie pour la bonne infection. Mais il y a de plus en plus d'outils qui s'ajoutent sur le site. Donc, il ne faut pas hésiter à aller consulter cette partie-là, outils. Et notamment, entre autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais un outil aussi de fiche sur la fièvre de l'enfant. Comme Hélène le disait, maintenant, il y a une sectorisation hein, des connexions. Et donc, on a un partenariat avec Antibioclic qui relaie en fait aussi certaines actualités du CRATB. Et donc, un accès pour les professionnels exerçant en Pays de la Loire un certain contenu sur Antibioclic propre aux créations du CRATB Pays de la Loire. Toujours sur Antibioclic, cette fiche autour du microbiote intestinal, dont on a pas mal parlé quand même au cours de ce topo. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus et peut-être aussi apporter des éléments de discussion avec les patients, c'est quand même un argument auquel ils sont assez sensibles en cette période quand même de One Health, comme évoquait Hélène en introduction. Ce côté préservation du microbiote est un bon argument pour discuter des antibiotiques. À droite, des outils usagés qui donc sont sous un format incollable, assez ludique, hein, donc avec des questions vraiment comme dans le jeu initial, qui permettent aussi soit de faire patienter en salle d'attente ou à l'officine, soit d'engager peut-être une discussion soit pourquoi pas à ramener chez soi le soir pour passer un bon moment et gagner un peu en compétences. Donc il y a deux versions, une junior, une adulte. Et là aussi, on peut en commander sur alors c'est pas sur le site directement, c'est en passant par nous pour pouvoir en avoir des exemplaires. Et enfin, ça c'est une des dernières productions réalisées par les collègues de l'antenne nantaise du CRATB en partenariat aussi avec une CPTS. C'était la demande de cette CPTS de refaire un peu le point sur le calendrier vaccinal. Alors évidemment, il existe déjà beaucoup de supports, mais ils avaient des attentes assez précises pour ajouter des choses par rapport à l'existant. Et donc voilà, un outil tout neuf sur la vaccination qui pourrait aussi, si vous le souhaitez, vous être proposé. Et donc je voudrais juste finir sur ces histoires de partenariat parce que donc là dans beaucoup des outils qu'on vous a présentés sont en fait issus de collaborations avec des MSP ou des CPTS qui avaient des projets précis et qu'on a pu accompagner pour créer des documents. On propose en fait un programme donc, qui s'appelle Fantasio qui est à destination plutôt des structures d'exercice coordonné parce que comme le webinaire finalement de ce soir, l'idée c'est d'avoir une approche assez pluripro de cette thématique du bon usage des antibiotiques pour que toute l'équipe ait envie d'aller dans le même sens et fonctionne en synergie dans ce but commun. Donc en deux mots, Fantasio, c'est des formations qu'on vient faire sur site avec deux à trois formations sur l'espace d'un an, 1 an et demi, dans cette approche pluripro et ensuite éventuellement sur les formations à venir, on peut aussi cibler des thématiques, peut-être aller un peu plus dans le détail sur certains thèmes. On vous propose un catalogue d'outils comme certains qu'on a pu vous montrer ce soir, notamment donc des outils à destination des patients. On travaille éventuellement des outils s'il y a des choses que vous voudriez pour votre territoire. Et puis on a aussi un appui sur le côté un peu plus administratif, s'il y a besoin pour valoriser dans les ACI, s'il y a besoin pour la rédaction de protocoles, s'il y a besoin d'indicateurs, comme Hélène vous présentait en préambule, on peut avoir certains des indicateurs de consommation d'antibiotiques à des échelles type CPTS ou communauté de communes. Donc ça aussi, on peut vous en fournir et surtout vous aider peut-être dans l'analyse. Donc n'hésitez pas, c'est un programme qu'on propose sur l'ensemble de la région, avec donc une quinzaine là d'établissements qui ont commencé à travailler avec nous sur le sujet. On a des référents par département, donc vous pourrez retrouver sur la diapositive les professionnels à contacter si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pour votre structure. Après, évidemment, on n'est pas non plus fermé, hein. On accompagne aussi, par exemple, un groupe de médecins généralistes qui voudrait faire de la formation. Enfin, ça se veut pluripro, mais on est ouvert après à toute proposition selon vos souhaits, à partir du moment où vous êtes motivé. Donc en conclusion, j'espère qu'on vous aura convaincu que la prescription, c'est une chose, mais dans le bon usage des antibiotiques, en fait, il y a beaucoup d'autres choses qui gravitent autour, et que ce soit l'impact d'un bon prélèvement, le rationnel d'une bonne prescription en fonction des craintes et des croyances, la bonne communication qu'on n'a pas abordée, hein, mais entre soignants, qui influence aussi largement les prises de décision, le problème de l'allergie. Le problème de la sensibilisation et de l'éducation des patients qui, en fait, est sur vraiment un large panel de tout ce qui touche à l'infectiologie. Et ben, en fait, voilà, le bon usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance, ça concerne tout le monde, usager compris, et que la prescription n'est pas aussi simple que le fait d'avoir une infection et d'y apporter une réponse par un antibiotique. Entre deux, en fait, il y a beaucoup d'écueils qui peuvent se poser, mais que tous ensemble, c'est des écueils auxquels on peut répondre, même si on n'est pas prescripteur. Merci pour votre attention et puis on va pouvoir éventuellement prendre les questions dans le chat auxquelles on n'aurait pas déjà répondu.
Alors, effectivement, il y a quelques petites questions. Il y a quelqu'un qui demande un avis sur les prescriptions suivantes. Fosfomycine en sachet par semaine pendant plusieurs mois. Selexid un comprimé tous les 2 jours pendant des mois. Et un sachet de phospho si douleur ou gêne prescrit par un néphrologue. Doxycycline pour l'acné pendant plusieurs mois. Azithromycine 3 fois par semaine durant la période hivernale. Merci pour votre retour.
Voilà, on est sur des situations précises, donc peut-être qu'on manque aussi un peu d'éléments. Après, à vue de nez, alors, phosphomycine un sachet par semaine pendant plusieurs mois, Dans la prophylaxie de cystite récidivante, c'est un schéma qui peut être proposé, sous réserve normalement d'avoir éliminé certains critères et notamment des problèmes urologiques ou gynécologiques. Donc le schéma est possible, après il faudrait voir le contexte. La deuxième proposition sur le Selexis d'un comprimé tous les 2 jours, je pense que c'est tout à fait discutable, voilà, quel que soit le contexte. La doxycycline pour l'acné, alors faut savoir que normalement elle est limitée à 6 mois et que si on a une acné résistante malgré de la doxy prise pendant 6 mois, normalement il faut passer à l'échelon supérieur. Donc on ne devrait plus voir de la doxy traîner pendant 2 ans pour des acnés. Et le dernier, azithromycine 3 fois par semaine durant la période hivernale. Alors il y a des schémas de prophylaxie dans des infections respiratoires récidivantes sur des terrains par exemple de mucoviscidose ou de dilatation des bronches. On peut voir des macrolides comme ça en préventif. Après, dans ce cas-là, c'est pas une limitation à la période hivernale. Je sais pas si Hélène, t'as des...
Effectivement, dans la dilatation des bronches, il peut y avoir des schémas macrolides un peu prolongés. Mais c'est vrai que sans avoir les antécédents et le contexte de prescription, c'est un peu difficile. Si c'est sans terrain particulier, c'est quand même très questionnant. Ouais. Effectivement, c'est ce que vous soulevez là, c'est les antibioprophylaxies la dernière enquête nationale de prévalence sur les antibiotiques en EHPAD soulève quand même une grande augmentation de ces stratégies d'antibioprophylaxie. On peut questionner vraiment leur indication, mais ça, à travers une enquête nationale, on ne peut pas le faire. C'est vrai que ces stratégies d'antibiotiques au long cours sur les urines, elles peuvent être validées, mais quand on a vraiment des infections urinaires très, très récidivantes dans l'année, donc il y a des critères objectifs précis qui sont définis pour pouvoir le proposer. Ce qui est important, c'est que ça se réévalue. Hein, si ça marche tant mieux pour les patients éligibles, mais quand ça marche pas, eh ben, on n'expose pas un antibiotique qui sert à rien. Donc c'est vrai que. Et puis il y a aussi tout un, comme disait Willy, un bilan à mener préalable pour voir si on a des stratégies de prévention efficaces pour éviter juste d'être dans le curatif et de mettre des antibiotiques sur, en particulier les femmes âgées qui ont des problèmes de cystite récurrente qui peuvent être quand même parfois très invalidantes et altérer beaucoup la qualité de vie.
Je peux prendre la parole?
Allez-y, allez-y.
Oui, c'était donc effectivement, il y a des cas où c'est plutôt en prévention. Sauf que nous, on est quand même confronté à l'indication précise de ces antibiotiques. Donc, on est sur du hors AMM très souvent. Là, le cas de Selexid, c'est pour un homme. Bah, face aux patients, on est aussi embêté parce que ça veut dire prescrit hors AMM, donc pas de remboursement. Voilà, c'est aussi tout ça sur lequel on est confronté. Et moi, ma question, c'est aussi bah, justement quel est le devenir si on se met à prescrire ces antibiotiques au long cours? Au niveau de la résistance, puisqu'on en est là, c'est le sujet. Donc, je ne suis pas spécialiste, ni infectiologue, ni je suis pharmacien, mais ça me pose quand même question. La doxycycline, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est malheureusement, ils ne suivent pas les recommandations qui. Moi, j'étais restée même sur 3 mois de prescription. Voilà, et puis bah, c'est vrai que parfois ça marche, donc en général, bah, les médecins continuent à prescrire, quoi. Mais qu'en est-il après des risques de résistance de tous ces antibiotiques? Parce que là, ça fait quand même déjà 4 molécules.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait l'enjeu de toute façon, toute exposition, quelle que soit la famille d'antibiotiques, va exposer à l'émergence de risques de résistance. Donc, comme on vous l'exposait, excusez-moi, chaque prescription doit être vraiment pesée, mesurée, justifiée. Donc, une des solutions, ça peut être. Si vous avez des bons liens avec le prescripteur de votre réseau, bah de suggérer, d'adresser, je pense au Selexis d'un comprimé tous les 2 jours là pour le patient, éventuellement prendre un avis infectio pour essayer de voir s'il y a d'autres pistes alternative ou si à cette prescription d'antibioprophylaxie avec tous les guillemets qu'on peut y mettre.
Et après, sur la problématique de l'AMM, c'est vrai que malheureusement, il y a quand même beaucoup d'antibiotiques qui sont utilisés, notamment par les spécialistes infectiologues, pour de bonnes indications, sauf que malheureusement, l'AMM n'a pas été prévue pour ça, et c'est un problème, effectivement, du coup, après, de remboursement. Mais pour prendre, par exemple, la phosphomycine ou le Selexid, c'est déjà utilisé, par, certains spécialistes dans les infections urinaires de l'homme, alors que
Oui,
ce
tout
n'est
à
pas
fait.
recommandé. Mais toujours est-il que ça marche et donc c'est pas une erreur de le faire à partir du moment où on est un peu alerte sur le sujet. Malheureusement, en effet, l'AMM, du coup, bah, ça pose problème.
Non, mais je suis tout à fait d'accord, hein. Bien sûr, j'ai vu récemment chez l'homme, lui, la proposition de phospho à J0, J3, J5, je crois. Mais voilà, nous, on est tenus à respecter l'indication. Et puis vous évoquez les échanges avec des spécialistes. On est loin d'être, on veut surtout pas, on refuse pas du tout cet échange, bien au contraire. Et malheureusement, en revanche, on n'a pas souvent la possibilité de contacter ou d'avoir directement le spécialiste. Et c'est bien dommage parce que, bah, nous, on se retrouve face aux patients. Et voilà, et puis on a le remboursement aussi derrière. Ben voilà, c'est toujours très compliqué pour nous. Donc, ce serait bien que, oui, ces choses qui se pratiquent parce que c'est efficace, j'entends bien, mais ben, qu'il y ait des choses de fait pour qu'on aille plus vite, peut-être pour l'AMM, etc. Qu'on se retrouve pas coincé, nous. Dans cette problématique.
Je crois que malheureusement, à notre échelle, effectivement, on n'a pas beaucoup de leviers vu les procédures pour l'AMM. Et non, j'entends tout à fait. Et je ne pense pas qu'il y ait de solution, malheureusement, en attendant une évolution des recommandations. Ça va être le cas, par exemple, pour les infections urinaires masculines, où il va y avoir une validation de ces molécules chez l'homme. Après, voilà, derrière, les recommandations vont peut-être faire évoluer l'AMM, etc. Mais on imagine que ça va être dans des délais très longs.
Si je peux me permettre, par rapport au rôle des pharmaciens sur les antibios, c'est vrai que des fois on se retrouve dans des situations hyper compliquées. Enfin là, je pense au Selexid tous les 2 jours. Si on n'arrive pas à joindre le spécialiste, c'est vraiment pas cool. D'un autre côté, comme c'est souvent des schémas de prophylaxie, il n'y a pas d'urgence à délivrer. Et donc on peut prendre le temps de se dire, bah, je ne vais pas vous le délivrer tout de suite, je vais essayer de joindre le spécialiste et éventuellement en parallèle essayer de voir si le médecin généraliste a des infos. Et encore en parallèle, appeler le CRATB pour leur demander un avis. N'y a pas toujours de caractère d'urgence à la délivrance d'antibio. Et quand les ordos, elles sont vraiment pétées, on a un devoir de refus de délivrance aussi dans l'intérêt du patient. C'est pas toujours facile, mais on peut apprendre à le faire.
Oui, effectivement. Et ça sera du coup plus l'EMA. Dans vraiment l'expertise de territoire qui pourra vous accompagner. On a eu encore récemment l'évoflot de grammes, enfin des choses par jour. Voilà, et effectivement, enfin, en dialoguant avec le spécialiste, on a fait changer la stratégie.
Il y a aussi effectivement ce levier-là qui est quand même pas négligeable, c'est que parfois en passant par l'EMA et donc l'infectiologue, bizarrement, la portée du message est tout autre et on arrive à faire changer des choses qui n'auraient pas été possibles malheureusement, hein, si ça avait été un contact direct par le pharmacien notamment. Donc,
Parce que du coup, les EMA, elles peuvent appeler le. Enfin, si le pharmacien appelle en disant j'ai un problème avec cet ordo et le spécialiste, il veut rien entendre, les EMA, elles peuvent se dire bah écoutez, moi je vais l'appeler pour discuter avec lui parce que effectivement, vous avez raison, il y a un problème.
si c'est une prescription hospitalière et que ce sont des professionnels qui déjà discutent, je pense que c'est des choses qui sont faisables. Après, évidemment, l'EMA ne pourra pas appeler chaque médecin généraliste qui a potentiellement fait une prescription douteuse. Enfin, c'est pas possible. Déjà, de nous solliciter pour savoir si le schéma proposé est rationnel ou pas, on reçoit parfois des demandes de ce type-là. Si on a des éléments de contexte, on peut éventuellement répondre à ça. Après, le contact du prescripteur, je pense que ce sera vraiment au cas par cas en fonction des connaissances des uns et des autres. Enfin, c'est
Oui, après pour le coup, le contact du prescripteur, je pensais à des spécialistes qui veulent rien entendre et qui sont pas forcément dans leur spécialité et tout ça, parce que le médecin généraliste,
Bah.
normalement, les
C'est le lot, je pense, quasi quotidien des EMA, en effet, de contacter des prescripteurs en intra-hospitalier sur des prescriptions un petit peu douteuses. Donc, je pense que ça se tente.
Et puis des fois c'est pas, enfin moi je sais que sur les antibios, des fois moi, mon levier c'est pas forcément le prescripteur, c'est le patient en fonction de la situation. Quand l'antibio il est pas approprié, qu'il y a plus de risques à délivrer qu'à ne pas délivrer, des fois juste d'expliquer les risques au patient, on peut juste convaincre le patient de ne pas prendre le traitement et d'éventuellement prendre un deuxième avis chez un autre médecin en fonction de la situation. C'est aussi un levier dans certaines situations.
Merci pour votre partage d'expérience.
Il n'y avait pas d'autres questions dans le chat, juste des remarques. Ce serait très intéressant d'avoir ces tests de réintroduction pour certains de nos patients présentant une infection marquée en dentaire et se disant allergiques. C'est top d'avoir une version pharma de l'ordonnance de non-prescription. Il y a des demandes sur où trouver les documents. Donc, vous avez répondu que c'était sur le site internet du CRATB. Et que les documents seront envoyés aux URPS pour qu'on puisse les repasser à nos professionnels.
On vous donnera un peu de documentation éventuellement supplémentaire pour creuser le sujet si ça vous intéresse. On va
Oui,
faire
c'est
une petite
bon.
sélection.
Et pour l'aide à la prescription, il y a antibioclique et d'antibiotiques. Voilà les dernières remarques du chat. De toute façon, on va mettre un replay du webinaire. Donc, on le rediffusera sur nos réseaux et puis sur nos sites internet. Il sera accompagné des ressources et puis de toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Et si jamais il y a des documents qu'on n'a pas mis ou si vous avez besoin de documents complémentaires, vous pouvez soit vous adresser aux URPS, soit directement au CRATB.
Ouais, n'hésitez pas, s'il y a des questions sur un point qui n'était pas clair, sur un outil, sur une intervention supplémentaire, sur un sujet précis, que ce soit en distanciel, en présentiel, enfin voilà, vous n'hésitez pas et puis on peut en discuter. Merci beaucoup en tout cas.
Merci
Merci
beaucoup.
à vous deux.
Merci.
Bonne soirée. Au revoir.
Merci, bonne soirée à vous aussi.